À plus d'un titre, deuxième partie, bonjour à tous. Et nous sommes en duplex avec Genève, avec vous Jean-François Bitter, bonjour.
Bonjour.
Jean-François Bitter, vous êtes sinologue, vous publiez aux éditions Alia donc un ouvrage intitulé « Notes sur Chuang Tzu et la philosophie » et chez le même éditeur qui est votre éditeur habituel, vous lui êtes fidèle Jean-François Bitter, donc chez le même éditeur la réédition d'un ouvrage qui était paru chez Skira, réédition entièrement refondue, intitulée donc « Essai sur l'art chinois de l'écriture et ses fondements ». C'est un essai sur la calligraphie. Nous aurons le temps de l'évoquer en fin d'émission avec vous, Jean-François Bitter. Mais je reviens donc à vos notes sur Chuang Tzu et la philosophie, publiées, donc, je l'ai dit, chez Alia. Il s'agit d'un dialogue ambitieux avec la pensée chinoise et concrètement, d'ailleurs, avec les participants d'un colloque organisé à Taipei et consacré à la traduction chinoise de votre livre, un livre précédent, intitulé « Leçons » au pluriel sur Chuang Tzu, également publié chez Alia. Il est donc beaucoup question de traduction et quand on connaît le soin avec lequel vous tentez de rendre compte de la pensée de Chuang Tzu en donnant à voir les profils sémantiques complexes et riches de ces concepts, on imagine combien le dialogue a dû être fructueux et plein d'enseignements. Les actes de ce colloque seront prochainement publiés en chinois, mais ce livre qui paraît aujourd'hui chez Alia vient compléter et élargir les perspectives du dialogue engagé lors de ce colloque. Le livre et le dialogue surtout est placé sous la présence tutélaire de Chuang Tzu, homme de dialogue lui aussi, puisque vous avez placé en exergue à votre livre un de ses propos, je cite, « Plutôt que de soutenir ce que l'autre rejette et de rejeter ce que l'autre soutient, tâchons d'y voir clair. » On ne saurait mieux dire, Jean-François Bitter, le souci qui anime cette conversation à distance, qui porte d'emblée sur des questions essentielles, à commencer par la notion de raison, qui n'a pas d'équivalent exact en chinois, dites-vous. Jean-François Bitter.
Oui. Le mot raison est un exemple que je donne pour illustrer une difficulté que l'on rencontre lorsqu'on s'entretient avec des amis chinois, des intellectuels chinois, surtout s'ils sont ancrés dans leur propre tradition intellectuelle et philosophique, parce que des mots qui passent pour être des équivalents l'un de l'autre, un mot français, un mot chinois, souvent n'ont pas le même arrière-plan, n'ont pas le même contenu sémantique. Et on croit pouvoir se servir de ces mots pour communiquer. En réalité, on bute sur des difficultés.
Et des malentendus.
Et des malentendus. Oui. Et une grande partie du colloque dont je parle dans ce petit livre a été consacrée à des discussions sur les mots, finalement. Et pour donner aux lecteurs français une idée du genre de difficultés que l'on rencontre, j'ai cité comme un exemple parmi d'autres le mot raison, parce que nous utilisons raison de 10 ou 20 façons différentes. On parle de la raison en philosophie, mais on parle de l'âge de raison dans la vie d'un homme ou d'une femme. On dit d'une petite fille qu'elle a déjà toute sa raison ou qu'un fou perd la raison. Tout ça nous paraît constituer un champ sémantique cohérent parce qu'il y a le mot qui apparaît dans toutes ces expressions. Lorsque vous parlez chinois avec des Chinois, vous n'avez plus du tout l'unité de ce champ sémantique. Chacune de ces expressions peut se traduire, bien sûr, mais se traduire par des mots qui n'ont rien à voir, de sorte que le champ qui nous est familier disparaît au profit d'autres champs. Et nous sommes trouvés en plein champ. Devant des difficultés de ce genre. C'est un exemple que je donne.
Oui, alors l'objectif très, très tôt avoué de votre livre et puis de ces enquêtes sémantiques et philologiques qui sont passionnantes d'ailleurs parce que les mots pensent et nous font penser également. L'objectif, je disais, on va y venir avec vous, mais je voudrais quand même qu'on reste un petit peu dans ces questions de mots et de traduction. C'est aussi de vous livrer à une sorte de, alors vous citez Wittgenstein, de Gedankenexperiment, c'est-à-dire oui, d'expérience ou d'expérimentation de la pensée. Et grâce justement à ces analyses sémantiques, à ces efforts de traduction et de dialogue, de peut-être, pourquoi pas, vous en faites la proposition, parvenir en tout cas, dans cet échange, à s'influencer, on peut dire, les uns les autres, à produire une sorte d'influence réciproque sur des notions philosophiques importantes. Alors, juste sur la raison, vous nous rappelez, Jean-François Bitter, dans votre livre, qu'on a donc tout de même forgé un néologisme au XXe siècle pour traduire le mot « raison ». C'est oui. C'est la politique, on va y venir. C'est Li Xing. Voilà.
Li Xing, oui.
Comme souvent en chinois, le chinois qui est une langue agglutinante, donc c'est la conjonction de deux mots qui va
rendre ce
concept de raison. Li Xing.
Li Xing, alors ça illustre parfaitement mon propos, parce que Li Xing, c'est l'équivalent de notre mot raison dans les dictionnaires de philosophie. Et parmi les philosophes ou les intellectuels qui ont une certaine culture occidentale ou marxiste aussi d'ailleurs, le mot Li Xing est connu. Mais quand vous parlez des Chinois, aux Chinois de la rue, Li Xing ne lui dit pas grand-chose et lui-même ne l'utilisera jamais. Mmh. C'est un bon exemple qui montre que l'équivalent, je dirais, de dictionnaire d'un mot fondamental chez nous, Li Xing, peut être un mot qui en chinois a très peu cours et n'est pas considéré comme central ou fondamental ou porteur de. C'est pas un mot courant. Il n'est pas porteur de valeurs auxquelles on soit attaché.
Voilà. Alors autre exemple, je le disais, le mot politique qui là encore n'a pas de traduction.
Même chose.
Chose. S'il s'agit également.
Enfin, si, là, il y a une traduction.
Alors il y a une traduction, mais c'est... là aussi c'est un néologisme du XXe siècle. Mais je vous laisse continuer. Donc c'est Cheng Che.
C'est l'équivalent courant du mot politique dans toutes ses acceptions. Mais ce que je montre à ce propos, c'est qu'il n'a pas du tout la même histoire. Pour nous, politique vient de polis, c'est-à-dire de la cité grecque. Et donc, dans politique, enfin, politique a un sens ou des sens nobles qui nous renvoient à certains éléments centraux de notre tradition politique et intellectuelle et morale. Tandis que l'équivalent chinois, zhengzhi, lui, n'est pas du tout porteur de ces significations-là.
Voilà.
Il est porteur d'autres significations.
Voilà.
D'où, les résonances, d'où les mots suscitent des résonances tout à fait différentes.
Bien sûr. Julien Gracq disait que les mots possèdent des adhérences multiples et que lorsqu'on fait coexister deux mots dans une même langue, donc le problème se pose même simplement en français, on a souvent des résultats imprévisibles. Alors, en l'occurrence, politique, le mot que vous avez prononcé, Jean-François Bitter, je ne veux pas l'écorcher une fois de plus, donc c'est le rassemblement du mot gouvernement et d'un verbe qui signifie assurer le bon fonctionnement de quelque chose, donc par le gouvernement. C'est ça la politique. Et effectivement, le noyau ancien du mot en français, qui comporte donc le terme grec de polis, qui renvoie, je vous cite, à une association de citoyens libres et égaux délibérant publiquement de la façon de prendre en main leur destin, ce sens-là, évidemment, est totalement absent du mot polis. Et vous ajoutez, le terme chinois n'est pas porteur du gène démocratique.
Voilà. Exactement.
Voilà. Alors, c'est effectivement.
Mais je rappelle que ce sont dans le petit livre dont nous parlons, ce sont des exemples que je donne pour aborder les difficultés que nous avons rencontrées ensuite sur d'autres termes. Ce sont des exemples.
Voilà, absolument. Mais c'est quand même tout à fait intéressant parce que justement, Jean-François Bitter, on va revenir sur le mot régime aussi, que vous considérez comme un cadeau du français et qui vous a permis de traduire de manière extrêmement ajustée un certain nombre d'aphorismes et de textes de Chuang Tzu, régime d'activité. Mais ce dialogue, justement, permet d'imaginer, parce que c'est ça qui est au fond de votre livre, donc des expériences de pensée qui pourraient déboucher, en somme, sur des influences réciproques. Et alors, vous prenez l'exemple du mot « tsi », qui est un terme fondateur de la pensée chinoise, extrêmement important, qui signifie en gros énergie universelle. Mais vous allez préciser, Jean-François Bitter.
On peut dire tout de suite que c'est un mot aussi fondamental dans l'usage philosophique, mais aussi dans l'usage courant, que le mot « matière » chez nous.
Oui.
Oui, tout à fait. C'est l'un de ces termes dont l'esprit a besoin, mais dont il est très difficile de désigner exactement le contenu, dont on a besoin pour désigner de façon extrêmement générale quelque chose de fondamental qui est à la base de tout.
Voilà.
Or, ce qui est intéressant là aussi, c'est que du moment qu'on a le qi en chinois et matière chez nous, pourquoi pas faire le rapprochement, on a de nouveau deux mots qui ne suggèrent pas la même chose et qui ne s'utilisent pas de la même façon. Et donc là aussi, dans certains cas, je pense qu'on pourrait traduire qi par matière, dans d'autres cas non. Lorsque l'on s'intéresse de façon un peu attentive, exacte aux idées et au transfert des idées d'une partie du monde à l'autre, il faut être précis et prudent.
Ouais.
J'établis quelque part un rapport qui s'impose entre le qi chinois et le pneuma grec.
Oui.
Et là aussi, il est intéressant de noter à la fois la parenté et les différences.
Oui, alors elles existent, hein, les différences, elles sont importantes. Il y a quelque chose de beaucoup plus à la fois concret et universel, finalement, dans la notion de qi, qui évoque, dites-vous, donc la vapeur d'abord, puis l'air en mouvement, et puis finalement l'énergie qui circule en toute chose.
Oui.
Et alors, vous en faites un peu la critique de cette notion en disant que finalement, ça revient à impliquer une sorte de continuité entre le début et la fin, entre le fond de tous les phénomènes qui soient... Voilà, les transformations qui se produisent au sein du qi font que les uns passe dans les autres, que l'objectif devient subjectif et vice-versa, rien n'est irréversible, etc. Et alors vous posez la question fondamentale de la place du sujet là-dedans.
Oui, dans nos discussions de Taipei, c'est surtout la question du sujet qui est apparue, qui s'est posée et que nous n'avons pas pu traiter comme il aurait fallu. C'est ce qui m'a incité à écrire un petit livre pour prolonger, pour préciser ma pensée et pour prolonger les discussions que nous avons eues. Parce que, à propos d'interprétation de textes du Zhuangzi, mes collègues disaient, oui, de toute façon, nous savons bien que le sujet, la subjectivité, sont l'un des éléments du qi universel. C'est un moment dans les métamorphoses du grand tout. Et je me suis opposé à cela parce que j'estime que la pensée de Zhuangzi est différente. Et je me suis aussi opposé à cela pour d'autres raisons. Personnellement, j'ai personnellement des positions philosophiques. Et les positions philosophiques qu'avaient mes interlocuteurs, je ne les partageais pas. J'ai tenté d'expliquer pourquoi. Pourquoi ? Parce que dans cette vision traditionnelle en Chine, du qi comme base de tout et se transformant en tout, y compris dans les moments où le sujet se perçoit lui-même, je ne vois pas la possibilité de concevoir le sujet comme capable de rupture, capable de commencement, capable de création.
Oui, de nouveauté. Bon. Oui, oui.
Et de nouveauté. Et il me semble que, alors là, nous avons abordé, et j'aborde dans le petit livre une question fondamentale, c'est de savoir si nous sommes libres de nous faire différentes conceptions du sujet, s'il y en a d'autres, si certaines sont préférables à d'autres. Ce que je crois personnellement, je pense qu'il n'y a pas une définition du sujet, je pense que nous sommes libres, philosophiquement parlant, de réfléchir à celles que nous voulons préférer à d'autres. C'est finalement là-dessus que porte une partie essentielle de la discussion. Alors, vous parlez de Gedankenexperimente à la Wittgenstein, c'est un terme que j'utilise, ce sont des expériences mentales, si vous voulez. À l'un de mes interlocuteurs qui m'a paru particulièrement intéressant, je propose une transformation d'un certain thème, d'une certaine conception traditionnelle du sujet. Je lui dis, si vous voulez que la Chine se démocratise, il faut non pas rejeter votre conception traditionnelle, mais la modifier sur un point essentiel. Voilà la proposition que je lui fais. Et lorsque ce petit livre sera traduit en chinois et qu'il pourra le lire, je suis extrêmement curieux de savoir quelle sera sa réaction.
Et nous aussi, Jean-François Bitter, évidemment. Mais allons un petit peu plus loin dans la description de cette expérience de pensée. Donc, vous suggérez justement de placer une partie de ce qi, en somme, dans le périmètre, dans l'orbite du sujet.
Oui.
Expliquez-nous.
Enfin, du sujet individuel.
Du sujet individuel,
parce
absolument.
Que, oui, parce que dans une grande partie, je me méfie toujours quand on parle de la pensée chinoise globalement, mais enfin, nous sommes obligés de le faire maintenant. Dans une grande partie de la pensée chinoise traditionnelle, on considère qu'il y a certes une espèce de création continue qui se fait, mais elle ne se fait pas dans l'individu, elle se fait dans l'univers. De façon non localisable. Et l'individu, lorsqu'il est à l'origine de quelque chose, eh bien simplement parce qu'il est, je dirais, branché sur les métamorphoses universelles qui s'expriment à travers lui. Et à cela, j'oppose dans ce dialogue avec un certain Yang Rubin, professeur à Taïwan, qui est un bon philosophe et un homme que j'apprécie beaucoup. Je lui dis, voilà le point sur lequel il faut modifier la conception traditionnelle. Il faut localiser dans l'individu et nulle part ailleurs, pas dans l'univers de façon diffuse, cette faculté de rompre et d'innover.
Oui.
Et ça a des implications politiques essentielles. Parce que tant qu'on considère que l'univers se métamorphose et que les individus ne sont jamais que des parties de ces métamorphoses générales, eh bien, ça donne latitude à un pouvoir politique centralisé de se réclamer, de se présenter, c'est ce qui se faisait à l'époque impériale, de se présenter comme la médiation entre le tout et puis le monde humain. Mmh. Et dans ce monde-là, l'individu n'avait aucune autonomie.
C'est ça, oui.
Nous parlons pas d'autonomie psychologique.
Nous
situons maintenant en philosophie.
Absolument. C'est un terme dont on parle beaucoup, d'ailleurs, l'autonomie. Alors, ce qui est tout de même intéressant, frappant dans cette proposition que vous faites, Jean-François Bitter, c'est que vous proposez justement de modifier, mais de conserver, de dépasser, en quelque sorte, au sens hegelien du terme, donc, des conceptions traditionnelles. Vous ne proposez pas de déraciner, en quelque sorte.
Oui, parce que je suis hostile à un mode de pensée qui est très répandu en Chine et qui consiste toujours à opposer pensée chinoise et pensée occidentale et de raisonner en pour et contre entre ces deux choses qu'on a préalablement opposées. C'est d'ailleurs là-dessus que porte aussi une critique que j'ai faite de l'œuvre de François Julien. Et je propose là, dans ce petit livre, des exemples concrets de réflexion commune, menée en commun avec des interlocuteurs chinois sur le bon usage que nous pouvons faire de notre propre liberté philosophique.
Mmh, oui.
J'ajoute une petite chose aussi, c'est qu'une grande partie des études chinoises, de la sinologie, si vous voulez, a été animée, ce que j'appellerais, en tout cas du moins lorsqu'il s'agit de philosophie chinoise, un peu de littérature aussi, par une attitude apologétique. Les sinologues présentent les ouvrages qu'ils ont traduits, qu'ils ont étudiés, qu'ils ont interprétés ou éclairés, comme des ouvrages remarquables en eux-mêmes, alors que parfois il serait plus utile et plus intéressant d'en faire aussi la critique, de montrer leurs limites, de montrer les apories qui sont au cœur de certaines formes de pensée chinoise. Et c'est aussi là que j'essaye d'innover et d'adopter une attitude critique, parce que c'est plus intéressant pour le dialogue, c'est aussi beaucoup plus intéressant pour le public d'ici.
Oui.
Je crois qu'on ne peut pas rendre intelligible ce qu'on traite sans esprit critique.
Voilà, et cet esprit critique était évidemment étayé par votre connaissance du chinois, l'analyse philologique que vous faites, et puis également la connaissance de l'histoire, parce que le contexte historique est très important pour justement déployer le sens d'un mot et le connaître.
Oui, et puis le sens des textes, puisque nous parlons puisque tout cela concerne la traduction, l'analyse, la compréhension de textes de Zhuangzi, donc de l'Antiquité chinoise. Et l'histoire est effectivement extrêmement importante, parce que je pense qu'une grande partie de ce que nous considérons comme la civilisation chinoise est en fait la civilisation chinoise d'époque impériale.
Oui.
Alors que Zhuangzi est un penseur qui se situe avant l'époque impériale. Et donc il me semble que pour l'aborder, il faut que nous parvenions à faire abstraction de ce qu'est devenue la civilisation chinoise par la suite et ce qu'elle est à nos yeux aujourd'hui.
Alors, c'est une belle expérience donc de reconfiguration du sens.
Oui, c'est ça.
Une expérience collective aussi, commune en tout cas, engagée dans le dialogue. C'est un bel exercice inaugural pour ce livre, en tout cas, donc note sur la... sur Chuang Tzu et la philosophie. Et on en souhaite, bien entendu, Jean-François Bilter, la poursuite. Alors, vous nous avez dit que vous attendiez effectivement que le livre soit traduit en chinois pour avoir des retours, mais j'imagine que vous avez déjà en partie engagé un peu ce type de dialogue. Quel retour en avez-vous eu ?
Je dirais que tout est en suspens maintenant, parce que j'ai quitté Taïwan, je ne suis plus en contact immédiat avec mes amis de là-bas. Il faudra donc voir. Je pense qu'il y a des idées que je propose ou des questions que je pose simplement qui sont extrêmement nouvelles là-bas. En tout cas pour les spécialistes chinois d'histoire de la pensée chinoise. Et je crois qu'il faut avoir beaucoup de patience, ou disons que je suis obligé d'avoir beaucoup de patience, parce que le cheminement de ces idées nouvelles ou de ces questions nouvelles demande du temps, dépend aussi de beaucoup de hasard, de personnes qu'on rencontre, que l'on comprend, qu'on ne comprend pas.
Oui. Et d'initiatives aussi. Oui.
Donc, heureusement que je suis patient de nature, sinon ces choses-là, ce genre de partie ne serait pas jouable.
Oui. Alors, en tout cas, je vous souhaite évidemment bon vent dans cette tentative.
Merci.
Jean-François Bilter. Et puis, je voulais simplement rappeler que cette initiative de dialogue, elle révèle quand même qu'il y a déjà quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que vous êtes spécialiste ou sinologue, spécialiste de la pensée de Chuang Tzu, et vous êtes lu en chinois, traduit en chinois et lu en Chine. Donc c'est quand même un aller-retour particulièrement intéressant.
C'est assez rare, oui.
J'imagine, non ?
Ce sont des choses qui se font de plus en plus, qui commencent à se faire, disons. Je ne suis pas le premier sinologue spécialiste de pensée chinoise ancienne dont les ouvrages sont dont un ouvrage, oui, est traduit en chinois.
Jacques Gernet est traduit, par exemple, en chinois.
Oui, bien sûr. Ouais. La plupart, une grande partie, ses principaux ouvrages sont traduits en chinois depuis de nombreuses années. Mmh. Dans le domaine de l'histoire, cette pratique a commencé plus tôt. Dans le domaine de la philosophie, elle commence maintenant.
D'accord.
Est-ce que je peux ajouter une petite chose ? C'est que ce petit livre dont nous parlons a un caractère particulier. C'est que j'ai tenté de faire le point d'une discussion qui est en cours. Parce que j'ai pensé qu'il était intéressant pour des lecteurs d'ici de savoir de quoi nous discutions et de leur faire découvrir que ces questions apparemment très éloignées de leurs préoccupations, des questions de sinologues, ont une portée tout à fait générale et une grande actualité. Enfin, je ne sais pas si vous partagez ce sentiment. C'était en tout cas le mien.
Oui, il était évident que l'actualité donne un écho retentissant, on va dire, à ce type de tentative de compréhension, hein, de l'autre, mm-hmm, bien entendu, et puis de dialogue. Ça, c'est évident. Donc, on attend la suite avec impatience, Jean-François Bilter, et vous reviendrez à ce micro nous en parler.
Bien volontiers.
Merci. Alors, j'avais esquissé l'idée d'évoquer donc votre essai sur l'art chinois de l'écriture, sur la calligraphie chinoise. Mais dites-nous, c'est ce que vous révélez dans le livre, c'est, on va dire, le choc, l'impression, la séduction qu'a exercé sur vous la calligraphie chinoise qui est à l'origine de votre vocation de sinologue.
En partie. À l'origine de ma vocation de sinologue, comme vous dites, il y a de nombreuses choses, mais il y a celle-là certainement.
Alors, oui.
Oui, je vais peut-être, si vous permettez, faire un rapprochement entre cette nouvelle édition de mon livre sur la calligraphie et puis les notes dont nous venons de parler. Parce que cette nouvelle édition de mon livre sur la calligraphie représente au fond un état de ma réflexion, qui est le même que dans les notes. Et il y a un rapport transversal, si je puis dire, entre les deux, surtout entre les notes et le dernier chapitre. Parce que là aussi, j'ai été séduit par la calligraphie, je l'ai pratiqué, je l'ai beaucoup étudié, j'ai fait ce livre qui reste une synthèse. Mais lorsque je l'ai fait, j'étais, je dirais, sous le charme de la calligraphie, j'en étais amoureux, je n'aurais pas fait ce livre si je n'avais pas été. Mais maintenant, avec les années qui ont passé, j'ai plus de distance et je crois avoir introduit maintenant un éclairage nouveau qui est plus critique, qui est plus distancé et qui rejoint sur certains points essentiels les réflexions des notes.
Voilà. Alors, c'est un livre extrêmement illustré, hein, ça se comprend. La relation, vous venez de l'esquisser, mais vous voulez peut-être un petit peu la décrire.
C'est-à-dire que j'éprouve une certaine perplexité quand je vois ce qu'est devenue la calligraphie aujourd'hui en Chine. Elle est célébrée, elle est omniprésente, mais en même temps, elle a un caractère désormais académique. Et cependant, elle est l'objet d'une sorte de culte. Et cela me gêne et me pousse à me poser des questions, m'a poussé à me poser des questions. Je me suis aperçu que cette sorte de culte dont elle est l'objet, au fond, elle en a été l'objet dès l'origine. Et que ce culte est inséparable d'une sorte d'idéalisation de l'écriture qui est l'un des aspects importants de la civilisation chinoise d'époque impériale.
Oui.
Et je me suis interrogé là-dessus. Je me suis aussi interrogé sur le rapport entre l'écriture et le langage. Voilà des questions fondamentales qui me sont venues après coup, que j'ai déployées à la fin de cette nouvelle édition et qui, je crois, mérite d'être
précisé,
d'être médité.
Oui, voilà. Oui. Donc c'est bien une édition entièrement refondue, comme vous le dites et comme vous le rappelez dès l'introduction, la préface, Jean-François Bitter. Alors, ce que vous dites d'ailleurs sur cette idéalisation de l'écriture, effectivement, ça vient en quelque sorte, non pas contredire, mais contrevenir un petit peu tout de même à ce que vous estimez essentiel dans la calligraphie chinoise. C'est cette dialectique subtile qu'elle illustre pour le scribe, qui met sa sensibilité au service de l'écriture, pour en venir dans un deuxième temps à se servir de l'écriture pour exprimer sa propre sensibilité personnelle.
Oui, vous avez raison. Mais ça, c'est envisager la calligraphie d'un point de vue, de notre point de vue individualiste, de l'artiste qui exprime sa sensibilité personnelle. C'est un élément qui est très présent. Mais sur le plan des idées concernant la calligraphie, concernant l'écriture de façon plus générale, on a cette idée que l'écriture vient du fond des âges et vient du fond des choses et exprime de façon intemporelle une réalité transcendante. Ce sont des termes un peu trop simples que j'utilise maintenant, mais j'espère suggérer que l'écriture a été considérée comme révélatrice de quelque chose de l'ordre du général, indépendamment de son usage pratique. Et qu'au fond, l'art des calligraphes a été un art central dans la civilisation chinoise d'époque impériale parce qu'elle donnait vie à l'écriture. Elle rendait visible et sensible cette idée que l'écriture dérivait directement de la nature des choses.
Oui. Alors c'est elle un... Était... Oui, je vous écoute. Oui.
Et cela allait de pair avec l'idée que le régime impérial, lui, qui s'appuyait tant sur l'écriture, dérivait lui aussi directement de la nature des choses.
C'est ça.
Voilà le lien entre ce culte de l'écriture et cette civilisation fondée sur un régime impérial, voilà. Et découlant ou sécrétée par un régime impérial.
Alors, d'un point de vue pratique et esthétique à la fois, on le sait, c'est très impressionnant de voir un artiste donc au pinceau, le geste aussi qu'il produit justement pour calligraphier, pour exercer son art.
Technique, oui. Ouais. La technique calligraphique est une technique très intéressante, je dirais là au titre de l'étude générale des techniques humaines. Elle est intéressante au même titre que la technique du violon, si vous voulez. La technique du violon est en elle-même quelque chose d'extraordinaire, humainement parlant, et la technique du pinceau lui est comparable. Voilà un peu le plan, un autre plan sur lequel je me suis placé.
Voilà, le geste et le pinceau. Et vous nous rappelez dans ce livre également, Jean-François Bitter, qu'évidemment, cet art de la calligraphie, vous le pratiquez vous-même.
Je l'ai pratiqué, je l'ai assez pratiqué pour savoir de quoi je parlais.
Merci encore Jean-François Bitter. Je rappelle le titre de vos deux ouvrages. Donc l'ouvrage dont nous parlions avec vous, Notes sur Chuang Tzu et la philosophie, c'est publié chez Alia. Et puis cet ouvrage donc sur la calligraphie, Essai sur l'art chinois de l'écriture et ses fondements, également publié chez Alia.